Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archie Podcast Season 4.
Saison 4, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archie.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Mohamed Lotfi Belwari, architecte urbaniste, directeur du pôle urbanisme et paysage avec Mathilde Adam de Leclerc Associé, Paris, France. Christian Piel, dirigeant de l'agence Urban Water, située dans le 11e arrondissement de Paris. Pour notre passionnant 4e et dernier numéro spécial Leclerc Associé et 3e de la saison 4. Bonjour Christian et Mohamed, bienvenue dans Comme d'Archie.
Bonjour. Bonjour.
Christian, vous avez créé et dirigé durant 20 ans l'agence Composante Urbaine. Votre expérience de plus de 25 ans dans l'intégration du cycle de l'eau en milieu urbain vous amène à développer depuis 6 ans Urban Water, en associant plus étroitement urbanisme et eau, et incluant une dimension nouvelle, celle de l'eau comme support de nature en ville, à toutes les échelles. Ainsi aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'eau, l'eau dehors, l'eau dedans, le risque qu'elle représente et les bienfaits qu'elle nous apporte, si tant est que ces flux soient appréhendés. C'est justement votre travail. Nous en avons déjà parlé dans Comme d'Archie, lors de la présentation des projets européens et surtout avec l'une de vos consoeurs, architecte urbaniste, qui est Iris Chervet et qui est intervenue dans la saison 3, hashtag 21 et hashtag 22. Je me permets de le citer parce que je crois que vous avez travaillé ensemble.
Mais on travaille encore ensemble sur plusieurs projets, absolument.
Parce que c'était un podcast que j'ai trouvé, moi, très intéressant et très agréable à réécouter, même si c'est moi qui ai fait l'interview. Voilà, donc on va commencer par Mohamed, votre invité. Christian Piel, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, car à votre actif, en plus de votre qualification d'urbaniste, vous êtes hydrologue. Alors, pour quelles raisons devient-on urbaniste hydrologue et comment s'y prend-on ?
Eh bien, à l'origine, c'est un peu un hasard, même si j'ai une formation de géographe à la base. Et en fait, à la fin de mes études, j'étais en lien avec un ami, Thierry Métro, donc feu Thierry Métro, à qui je porte une pensée profonde. Et en fait, lui comme moi, on s'est retrouvé à travailler en Seine-Saint-Denis pour le service de l'eau et l'assainissement du département. Département de la Seine-Saint-Denis qui est géographiquement très vulnérable aux inondations parce qu'un département très plat qui draine tout un immense bassin versant et dont l'urbanisation s'est étendue de façon assez rapide et qui a connu dans les années 80 des inondations de plus en plus importantes au fur et à mesure que se développait l'urbanisation. Et je vais répondre à votre question. Et à l'époque, il y avait un courant de pensée qui a toujours, qui était mené par Bernard Choca, qui est un peu l'hydrologue, notre maître, un petit peu, et qui a considéré que ces problématiques d'inondation ne relevaient pas de l'assainissement. Et pourtant, à l'époque, ces inondations ont créé des bassins de rétention enterrés, ont créé des choses très de génie civil. Et qui s'est dit, en fait, ce qui produit l'inondation, c'est le ruissellement. Qu'est-ce qui produit le ruissellement? C'est la ville. Si on doit intervenir pour prévenir les inondations, il faut intervenir non pas sur ces bassins de rétention, c'est pas en augmentant les tuyaux, mais c'est plutôt en travaillant sur le tissu urbain. Et donc, c'est lui qui s'est dit, il faut embaucher des urbanistes pour réfléchir à ça. Voilà. Et donc, avec Thierry Métro, on a été embauché par cette direction de l'eau. C'est là où on a commencé à réfléchir. Et on s'est aperçu que c'était très intéressant parce que les réponses amenaient à réfléchir à la ville en tant que telle, à la structure et à la texture de la ville, Et donc, c'est comme ça qu'on s'est spécialisé en hydrologie, en interne, donc à la direction de l'eau, et puis ensuite, dans le cadre d'une formation continue qu'on a eue à Grenoble. Et puis, voilà, c'était tellement intéressant que j'ai décidé d'en faire mon métier, lui aussi, d'une autre façon, mais lui aussi.
Alors, aujourd'hui, vous avez cette agence Urban Water. Et en quoi consistent vos missions et sur quel type de projet travaillez-vous ? On est à l'heure du dérèglement climatique. Est-ce que ça vous apporte encore plus de travail ? J'imagine que oui.
Oui, bien sûr. Enfin, oui, bien sûr, mais pas que. Donc, à la base, hein, les fondamentaux, c'est la ville s'étend, la ville génère du ruissellement, elle génère d'inondations. Comment gérer l'inondation ? Donc, on a travaillé beaucoup au début sur comment créer des espaces multifonctions, des espaces urbains, des terrains de sport, des places, etc. Comment les rendre inondables, pouvoir canaliser l'inondation en cas d'inondation. Donc, on a d'abord été maître d'œuvre, beaucoup maître d'œuvre. Aujourd'hui, cette approche, elle s'est généralisée. Et donc, il n'y a pas que nous qui avons cette compétence-là. Donc, plus ça va, moins on fait maîtrise d'œuvre, à part pour concevoir des espaces très pointus qui vont permettre d'infiltrer l'eau, réutiliser l'eau. J'imagine qu'on en reparlera. Aujourd'hui, on intervient surtout dans l'élaboration de stratégies de gestion de l'eau à toutes les échelles, à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de la ville, à l'échelle d'une région presque. Donc, c'est beaucoup de la stratégie et ça se traduit également par tous les aspects réglementaires. Aujourd'hui, par rapport à toutes ces problématiques d'inondation et aussi de ressources, j'imagine qu'on va en parler aussi, il y a une réglementation et c'est comment on adapte, comment on joue avec cette réglementation dans les milieux urbains. Donc beaucoup de stratégies, du règlement, de la maîtrise d'œuvre et puis aussi un petit peu de recherche sur qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette eau, comment on peut valoriser cette eau et comment on peut valoriser le projet avec ces problématiques de l'eau.
Mmh. Ça me fait penser, il y a un sujet que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur l'eau qu'on désalinise, c'est ça ? Et qu'il y a, paraît-il, des tas de choses à faire avec ça. Enfin, c'est peut-être pas un sujet qui...
Si, c'est un vrai sujet, en réalité. Ouais. C'est un vrai sujet, mais qui n'est pas forcément la meilleure réponse, je dirais. En fait, je dirais que notre approche, c'est essayer d'être au plus proche de la géographie, c'est de retrouver dans le tissu urbain des processus naturels. C'est vraiment la base de notre réflexion. Et on s'oppose à une autre approche, qui est une approche vraiment d'infrastructure lourde, d'artificialisation. Et là, désaliniser l'eau, c'est effectivement créer de l'eau potable, mais au prix déjà d'une infrastructure extrêmement lourde, extrêmement coûteuse et en réalité extrêmement polluante, puisqu'elle va concentrer le sel là où on dessale l'eau. Donc voilà, nous, on aura plutôt une autre approche, essayer de trouver de la ressource en eau, en infiltrant les eaux, en réutilisant les eaux, etc. Donc c'est certes un sujet, mais on pense qu'il y a des alternatives à ça.
D'accord. Alors, on va peut-être faire le lien avec Mohamed. Mohamed, vous devenez un habitué de Comme d'Archi, puisque vous êtes intervenu il y a quelques jours dans le premier épisode de la saison 4. Merci de revenir avec Christian Piel. Alors, à l'agence Leclerc, quels sont vos projets au travers desquels l'eau est un élément plus présent qu'à l'ordinaire ?
Alors après, je voudrais tout d'abord remercier mon invité qui a accepté cette invitation, Christian. Christian, avec qui on travaille pas mal sur cette thématique, sur la thématique à la fois de l'eau, cette question de résilience, cette question de risque inondation, mais pas que. J'ai un peu été formé par Christian, j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. J'ai appris à regarder l'eau un peu autrement et à lire les villes aussi autrement. Parce que c'est vrai que cette couche, en plus, ce calque supplémentaire qui est l'eau, ben, il a beaucoup de choses à nous dire.
Est-ce qu'il est vraiment supplémentaire parce qu'il creuse des sillons ?
Oui, il y a des questions de pente, il y a des questions de sillons, il y a des questions de géographie, en fait. Et derrière l'eau, il y a à la fois cette question d'eau ressource dont on a besoin, qu'il faut préserver, parce qu'elle devient de plus en plus rare. Et puis on l'a vécu encore cet été avec cette espèce de rivière asséchée, d'espèce d'image d'apocalypse qu'on a vu ici et là et qui nous rappelle que notre maison brûle et que c'est très 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 urgent. Donc cette question est fondamentale dans le dessin des villes. Donc il y a cette espèce d'eau ressource, mais après il y a aussi peut-être cette idée que c'est l'eau aussi identité. C'est la source qui a un nom, c'est une rivière, c'est la Seine. Il y a des communes qui sont sur Vilaine-sur-Seine, Moret-sur-Loing. C'est des rivières, c'est des lieux qui rassemblent. C'est des espèces de cours d'eau linéaires qui ont quelque chose à raconter sur le grand territoire et qui peuvent être des supports de projets et des lieux de rassemblement. Voilà. Donc, et c'est peut-être un peu ça qui nous intéresse. Et c'est vrai qu'à l'agence, c'est un sujet qu'on traite maintenant sur plusieurs projets emblématiques, notamment sur Euroméditerranée avec la renaturation du ruisseau des Aiguelades. Mais je pourrais y revenir sur le delta de la plaine du Var avec le projet du Grand Arenas, mais aussi d'autres, à la fois à l'échelle territoriale, mais aussi à d'autres échelles. Quoi. Donc c'est aussi à l'échelle de l'espace public, c'est aussi à l'échelle du bâtiment. C'est-à-dire que l'eau à l'intérieur du bâtiment, c'est aussi quelque chose d'important. L'eau qui coule à travers des rigoles, à travers des toitures, mais aussi l'eau qui est à l'intérieur du bâtiment.
Alors justement, je vous propose de commencer par l'eau, les territoires et la ville. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément du projet de la vallée de l'Oued Martil à Tétouan au Maroc ? Projet donc de l'agence Leclerc, et je crois que vous avez été retenu en 2018, et peut-être développé Marseille, etc. Car on imagine facilement que les effets, les risques, les aménagements ne sont pas les mêmes suivant la géographie.
Oui, c'est clair que chaque contexte, à la fois culturel, politique, social, est différent. Et la perception de l'eau, elle n'est pas forcément la même en fonction des différents sites. C'est vrai que sur l'Oued Martil, alors c'est un sujet qu'on a travaillé avec Christian, qui était une commande très très particulière parce que il fallait venir en assistance technique, donc on était plutôt en AMO par rapport à un projet qui était déjà un peu existant, où on nous a demandé donc de re-questionner un projet qui consistait à transformer, à canaliser un fleuve pour prévenir le risque d'inondation. Parce que c'est des inondations très violentes dans un contexte méditerranéen assez fort. Et en parallèle de ça, le projet initial qui a été proposé, c'est on canalise tout dans une approche infrastructurelle dont Christian pourra détailler, et tout autour générer une ville, une grande ville linéaire, un potentiel de développement important pour l'extension de cette ville, avec l'idée d'une main tendue vers la mer et son extension vers la mer. C'était pas simple, parce qu'on s'est retrouvé confronté à une approche un peu infrastructurelle, enfin qui était ancrée dans la culture, et puis on a essayé de porter l'idée qu'au final, cette transformation, la transformation de ce Oued, peut se faire un peu autrement. Autrement, en lien à la fois avec une certaine nature, avec sa géographie, en inventant des espaces publics peut-être un peu différents. Et voilà, donc on a semé des graines. Je ne sais pas si le projet va continuer comme ça ou pas, mais c'était un moment assez intéressant pour moi, mais aussi pour l'agence, de se confronter aussi à ce type de sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Tout à fait.
Toi, Christian.
Oui, ce qu'on peut dire, en fait, c'est assez emblématique de l'approche auquel on s'oppose, mais on essaie de trouver des nuances. En fait, c'est, là, on voyait bien qu'il y avait un cours d'eau qui avait encore un fonctionnement plutôt naturel. Ça veut dire que l'été, très très peu d'eau. Et puis, aux saisons de pluie, on va dire, peut-être beaucoup d'eau. Donc, il y a une dynamique de l'eau qui est très forte. Et l'approche qui avait été mise en œuvre, c'est plutôt d'essayer de maîtriser cette eau. Donc, de dire, voilà, on va mettre des barrages, on va mettre des digues, et en dehors des digues, on va construire.
Une approche très ingénierie.
Très ingénierie, voilà. Mmh. Et nous, on a considéré d'une part que c'était encore très risqué, parce qu'on peut essayer de combattre l'eau, mais ça peut être, on l'a bien vu cette année avec tous les... Si l'eau dépasse les digues, c'est catastrophique. Donc là, on a essayé d'être beaucoup plus nuancé et de retrouver le fonctionnement naturel de cette eau et sa dynamique de l'eau. D'une part, pour faire en sorte que, quel que soit l'événement, la ville qu'on va construire peut l'admettre. Donc on a créé tout un tas de paliers qui vont être inondés plus ou moins fréquemment. Et en fonction de la fréquence d'inondation, on a proposé de végétaliser ou de créer des usages qui peuvent admettre des inondations plus ou moins importantes. Et ça se traduit donc en termes de paysage, enfin déjà de géographie, de morphologie, de microtopographie, de géologie également. Également en termes de paysage, d'écologie, et puis aussi en termes d'architecture, puisqu'il faut adapter l'architecture et la ville et la trame de, et la, la structure de la ville pour que ces bâtiments puissent admettre une inondation potentielle.
Ça veut dire qu'on construit sur pilotis ?
Entre autres, ça peut être sur pilotis ou ça peut être inondable, mais quand c'est inondé, ça ne génère pas de dégâts. Donc ça peut être un rez-de-chaussée qui a un usage qui est compatible avec une inondation exceptionnelle. Ça peut être aussi d'être des usages au bord de l'eau qu'on ne mettrait pas, on ne va pas mettre une crèche au bord de l'eau, mais par contre, on peut peut-être mettre un terrain de sport. Voilà, c'est aussi réfléchir aux différents usages de la ville et à sa répartition fonctionnelle, on va dire.
Alors, pour les villes de bord de mer, on va dire adieu aux villas.
Bon, face à l'érosion, face au mouvement du trait de côte, là, le combat est vraiment compliqué.
Oui, il est perdu d'avance.
Il est perdu d'avance, mais c'est aussi à nous, urbanistes, de voir où est-ce que ces villas peuvent retrouver une place, peut-être. Voir si ces villas, alors celles qui sont existantes, c'est plus compliqué, mais les nouvelles, est-ce que justement, elles ne peuvent pas supporter des inondations, des submersions marines. Et d'ailleurs, c'est le sujet aujourd'hui, c'est comment on construit avec cette inondation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le principe, c'est d'admettre l'eau dans la ville, c'est redonner une place dans la ville. Ce qui est intéressant, c'est que les pouvoirs publics adhèrent de plus en plus à cette approche-là, et même réglementairement. Donc aujourd'hui, c'est admis, c'est même demandé aux urbanistes de réfléchir, plutôt que de mettre des digues, de réfléchir à une ville qui va être poreuse, mais poreuse dans tous les sens, en cas de pluie, en cas de submersion, en cas de crue, etc. Et donc c'est là où ça devient intéressant, et de plus en plus intéressant, c'est que cette problématique de l'inondation, on ne dit pas on va lutter contre, on dit on va faire avec. Et l'idée, c'est qu'on rende la ville moins vulnérable pour enlever cette notion de risque, en fait.
On retire l'asphalte ?
Alors, on peut retirer l'asphalte, c'est très intéressant, mais retirer l'asphalte, ça ne répond qu'à une problématique, celle, on va dire, des pluies courantes, un petit peu des pluies exceptionnelles. C'est très intéressant, parce qu'effectivement, grâce à ça, on va pouvoir recharger les nappes. En fait, on se réinscrit dans la géographie, dans le cycle de l'eau. On va recharger les nappes, on va recharger les sols, ça va permettre une végétation. Cette végétation va permettre de la biodiversité, du rafraîchissement, etc. Et c'est là où c'est très intéressant aussi pour les urbanistes, c'est qu'on passe de la notion de risque, vous voyez, on fait ça pour limiter le risque. En réalité, la solution va permettre de limiter le risque et de profiter de la ressource. D'un coup, cette même eau, elle devient ressource. Et c'est là que ça devient très intéressant pour tous les acteurs d'aménagement.
Et je dirais même qu'elle devient usage. C'est-à-dire qu'au-delà de la ressource, ça devient usage. Et ce qui est intéressant, quelque part, ces espaces qui sont des espaces inondables dédiés à l'eau permettent du coup de générer des lieux dans la ville un peu différents, de retrouver une certaine nature, d'accepter que des espaces ne soient pas construits, des espaces en creux qui peuvent accueillir des usages, enfin, tu l'as dit, ça peut être des usages sportifs, ça peut être d'autres usages. Et c'est quelque part un petit peu ça qu'on a développé avec, avec Base, avec les paysagistes de l'agence Base sur Tétouan, qu'on continue aussi à développer avec l'agence Base aussi sur Méditerranée. Quelque part, on profite du fait que c'est inondable pour geler des espaces et recréer des creux dans cette ville, des espaces pour la nature, pour des usages, des espaces libres de construction, autant à la fois de relais de fraîcheur, mais aussi vecteurs d'identité et d'attractivité pour des villes qui devront être de plus en plus attractives et qui devront répondre aussi aux aspirations d'une population aujourd'hui qui tend à partir d'elle, à les quitter. Donc ces espaces en creux, ben, ils sont intéressants et en fait l'eau nous aide pour ça aussi.
Et est-ce qu'il y a une hydrologie du nord et une hydrologie du sud ? Parce que c'est Franck Boutet en parle pour le climat. Est-ce que ça existe pour l'hydrologie ?
Oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment... Il y a deux types de pluies, on va dire. Il y a les pluies du nord sont longues et assez peu intenses, mais très longues. Donc, ça va être des volumes très importants. Donc, infiltrer, ça va être très long, par exemple. Mais c'est donc assez prévisible, quand même. Donc, en termes de réponses, on va pouvoir apporter des réponses qui seront différentes parce que c'est prévisible, parce qu'on aura du temps. Voilà. Le sud, c'est des pluies très denses, très brèves, donc très intenses, donc avec des débits extrêmement élevés. Et donc, les réponses vont être complètement différentes. Et sachant que la problématique, en particulier en termes d'inondation, mais même en termes de ressources, ce n'est pas tellement le volume, c'est vraiment le débit, quoi. C'est la dynamique dans le sud. Le fait qu'en quelques minutes, un cours d'eau peut centupler fait que les réponses apportées sont comment on évacue très vite les gens, les biens, etc. Dans le Nord, c'est différent. Il n'y aura pas forcément besoin d'évacuer. Mais par contre, il faut vivre avec une pluie qui sera longue. Donc, c'est d'autres problématiques.
Et Christian, j'ai une question à te poser. Est-ce que ce n'est pas en train d'évoluer ? Ce qu'on a vécu cet été à Paris avec cet orage hyper violent.
J'allais poser exactement la même.
Est-ce que le Nord est en train de devenir le Sud ?
Alors, c'est pas tellement... Enfin, le Nord est en train de se sudifier progressivement. Néanmoins, il y a encore cette différence.
C'est plutôt rassurant.
C'est assez net. Ouais. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais disons que nous, tous les... L'hydrologie, c'est très, très normalisé. C'est sur des données très précises, produites par Météo France, etc. C'est vraiment encore d'autres pluies. C'est vraiment une autre typologie de pluie qu'on doit intégrer que celle du Sud. Parce que celles du Sud sont aussi de plus en plus intenses, de plus en plus fortes et potentiellement dévastatrices.
Vous voulez peut-être revenir sur vos projets communs dans l'Hexagone ?
Après, il y a peut-être un sujet qui nous tient à cœur à l'agence depuis quelques années, c'est cette idée de c'est Marseille Euro-Méditerranée et le ruisseau des Égalades. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce ruisseau, qu'on peut parcourir et on peut prendre des bottes et puis aller jusqu'à la montagne, c'est une structure linéaire qui traverse des quartiers, une structure géographique forte qui va de la montagne de l'Étoile jusqu'à se déverser en mer. Et donc ce ruisseau est porteur à la fois d'imaginaire, il est porteur d'un écosystème d'acteurs qui s'en est emparé, quelque part. C'est vrai que les autorités ne se sont pas forcément emparées de ce ruisseau, mais je peux citer le bureau des guides qui le fait découvrir. Il y a une cascade dans laquelle il y a tout un tas d'événements qui sont créés. Et du coup, ce ruisseau, il devient un lieu identitaire assez important, aussi pour les quartiers nord. Et en fait, ce qu'on défend, et depuis quelques années maintenant, c'est que ce ruisseau devienne finalement le grand parc linéaire des quartiers nord. Et que,
un fil conducteur.
Un fil conducteur, une sorte de grand parc, et qui soit, du coup, vecteur de transformation de ces quartiers. Alors, nous, à notre échelle, sur le secteur de l'Euro-Méditerranée, on est vers l'aval, c'est-à-dire on est presque arrivé en mer, avec l'idée qu'on porte depuis quelques années et qu'on développe avec l'agence base, qu'on a développé avec l'agence Terre il y a très longtemps, et puis là qu'on prolonge avec base, que ce grand parc autour de ce ruisseau renaturé, qui est aujourd'hui dans un cadre en béton, qu'on puisse l'ouvrir, le révéler, le redonner aux habitants, et que ça devienne un espace de fierté et le fil conducteur, l'élément majeur de ce parc des Égalades tant attendu par les Marseillais. Donc c'est là où je parle de la question de l'identité. Mais il y a aussi la question de la ressource et il y a aussi la question du risque. Après, sur Romède, c'est pareil. Enfin, le sujet central est aussi la question de l'inondation parce que on est à la confluence à la fois du ruisseau des Égalades, mais aussi de deux autres ruisseaux, le ruisseau de Plombières, le ruisseau des Lions, et tout ça vient des montagnes. Et en plus, ça va très vite. Quand il y a des inondations, ça inonde tout. Et donc, tout le travail qu'on a fait avec Christian et avec cette Equidratech aussi, parce que c'est notre bureau d'études qui nous accompagne sur ce sujet avec base, c'est de voir comment la trame de la ville peut s'adapter à ce risque, comment la pente des rues est favorable, comment les îlots viennent se positionner sur le sol pour que tout se passe bien en cas d'inondation. Et voilà, donc c'est un thème qui nous est cher, et puis c'était c'est un thème assez passionnant et porteur de beaucoup de choses positives.
Voilà. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est effectivement l'histoire de ce ruisseau, il traduit bien l'évolution urbaine, c'est-à-dire que c'était un ruisseau qui avait un petit débit parce qu'il drainait des coteaux naturels. Et puis, au fur et à mesure qu'on a urbanisé, donc le débit, le ruissellement s'est accru. Donc, c'est devenu une nuisance. Donc, on l'a complètement couvert. Et puis, il a continué à créer des problèmes parce qu'il a des... Comment dire, il transporte des débits de plus en plus importants au fur et à mesure que l'urbanisation augmente. Et là, ce qui est en train de se faire, c'est l'inverse. On retrouve, on essaie de le réinscrire dans son fonctionnement naturel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va effectivement tracer un cheminement le long duquel tout un tas d'histoires vont se recréer. On essaie aussi de voir comment le bassin versant peut de nouveau être poreux pour éviter de générer du ruissellement. Donc, ça a un impact sur la partie amont, sur la morphologie urbaine amont. Et puis, sur la partie basse, on lui redonne un lit majeur. Dans ce parc, il y aura son passage, le lit mineur, et puis sera également le lit majeur. Donc, on retrouve un fonctionnement naturel. Et juste une dernière chose, ce qui est intéressant, c'est que l'agence Leclerc a fait travailler aussi Météo France sur l'impact que peut avoir cette résurgence de l'eau dans le milieu urbain. Le fait qu'il y ait cette eau-là en milieu urbain, qu'il y ait cette proximité de la mer, en quoi ça peut générer des courants qui vont avoir un impact bioclimatique, qui vont permettre de rafraîchir la ville. Donc vous voyez, on passe vraiment d'une contrainte, gestion du risque, à des solutions qui portent sur l'inondation, sur la ressource en eau, mais également sur le climat. Donc c'est vraiment retrouver tous les métabolismes naturels qui étaient à l'origine dans un tissu rural. On va les réintégrer, mais dans un tissu urbain. Donc, on ne va pas contre l'urbanisation, on accompagne l'urbanisation, on se réinscrit dans l'urbanisation, mais cette fois, de façon, non pas en conquérant, mais modestement, en disant, on va respecter le fonctionnement naturel et on va en tirer profit.
Alors, modestement, mais vous parliez de béton, donc il faut débétonner.
Alors, si je dois répondre...
Ça doit être...
Alors, débétonner...
C'est possible.
Bon, la fabrication de la ville, elle dépend des fois de considérations paradoxales. Les villes doivent s'étendre, les villes doivent continuer à accueillir, les villes doivent pouvoir se rénover, les villes doivent pouvoir accueillir de l'emploi. Ça nécessite bien sûr de construire ou de rénover. Il est vrai que la tendance aujourd'hui est à la diabolisation du plein et à la valorisation du vide, qui est une tendance assez forte aujourd'hui, parce que c'est le retour de la nature en ville, et c'est une sorte de discours très, très dominant aujourd'hui, et qu'on partage. Donc on n'est pas contre cette idée que la nature revienne. Après, c'est la question de l'équilibre, à un moment. C'est-à-dire, où est-ce qu'on met le curseur sur le retour d'une nature en ville, mais aussi l'accueil de nouveaux habitants, la création d'emplois, la rénovation de quartiers. Comment trouver le juste milieu? Comment jouer avec les curseurs? Et c'est quelque part là où nous, on joue un rôle. C'est dans cette espèce de rééquilibrage entre fonction urbaine, fonction naturelle, infrastructure.
Parce que vous allez peut-être agir dessus, mais de manière homéopathique, entre guillemets?
Moi, je ne dirais pas ça, en fait. Je dirais, et là encore, c'est ce qui fait l'intérêt de la chose, c'est qu'aujourd'hui, réglementairement, c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire quand on urbanise, on doit faire en sorte que l'urbanisation s'inscrit pleinement dans le cycle de l'eau. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose dit comme ça, mais en réalité, il y a une obligation de gérer les petites pluies. En fait, il y a une obligation de rendre la ville spongieuse. Donc même si on ne débétonne pas, bien sûr, ça peut être conseillé, mais ce n'est pas forcément d'ailleurs au contraire à une ville dense, il faut que les bâtiments soient suffisamment poreux, retiennent l'eau, permettent l'évapotranspiration de l'eau, fassent en sorte que lorsqu'il pleut, l'eau n'aille même plus dans les réseaux. C'est une obligation. Il y a le plan pluie à Paris, mais c'est quasiment partout comme ça. Et donc, ça oblige aussi bien les architectes que les paysagistes que l'ensemble des acteurs de l'aménagement de réfléchir à comment, parcelle par parcelle, on va garder cette eau, on va l'infiltrer, on va végétaliser pour pouvoir l'absorber. Et une fois qu'on répond à cette contrainte, donc on n'a pas forcément débétonné, on a juste réintégré de la matière pour absorber cette eau. Le gros intérêt, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on s'aperçoit qu'on a un support pour la nature, pour faire pousser des choses, qui est très fort. Donc, de cette contrainte, là encore, de cette contrainte de la gestion de l'eau, pour les plus exceptionnelles, mais là, pour les plus courantes également, on arrive à tirer des parties qui sont très, très forts, je dirais, pour une vraie nature en ville, avec de l'évapotranspiration, de la biodiversité, etc., etc. On recrée la nature, les processus naturels dans une ville, même dans une ville très dense, comme à Marseille,
oui,
comme à Paris.
C'est ce que j'allais aussi vous poser comme question, parce que finalement, est-ce qu'on peut vraiment retrouver la nature depuis le temps qu'on agit dessus?
Si je peux répondre, oui. Je dirais qu'on ne va pas retrouver la nature dans le sens où on ne va pas retrouver une forêt vierge. Mmh. Ce qui est intéressant, en tout cas pour l'eau, c'est qu'on retrouve les processus naturels. Ça, c'est essentiel. Ça veut dire qu'on recharge la nappe, on recharge les sols, encore une fois, comme je disais tout à l'heure. Et le fait qu'aujourd'hui, même obligatoirement, dans beaucoup d'endroits, on est obligé de gérer les eaux de façon gravitaire. C'est-à-dire qu'on est de nouveau obligé, et tant mieux, de regarder quelle est la géographie, quelle est la topographie. Et donc, il y a un sens d'écoulement de l'eau. Le long de cet écoulement de l'eau, on va pouvoir mettre les circulations douces, par exemple. Bref, on va être obligé d'organiser la ville en fonction de cette nature. La géographie, c'est la nature. Donc, on n'a pas tous les arbres sauvages, mais on a ces processus naturels, mais de façon très forte.
Après, c'est vrai que même à l'échelle architecturale, ça peut apporter quelque chose. C'est-à-dire, je vais citer quelques exemples historiques d'architecture où finalement, l'eau est mise en scène. Les gargouilles de Notre-Dame, où ça devient un élément architectural. Je pense aussi à toutes les gouttières de Roland Simounet dans son bâtiment à côté de la basilique Saint-Denis, où l'eau est mise en scène et dans l'architecture elle-même. Donc on la voit s'écouler, pas que dans des vulgaires gouttières, mais ça devient un élément architectural.
Elle peut nous aider à renouer avec un imaginaire bâtisseur, alors qui est un petit peu en déperdition.
Oui, quelque part, oui. C'est-à-dire, ça peut être... Et en fait, toute l'histoire de l'architecture est là pour nous le rappeler. C'est-à-dire les maux des natures, les gargouilles. Enfin, quand on va à Grenade, à la Alhambra, c'est pareil. Enfin, il y a tout un parcours de l'eau. Donc, le parcours de l'eau dans l'architecture peut être quelque chose d'assez formidable et dont on devrait s'y intéresser encore plus aujourd'hui quand on conçoit nos bâtiments.
Mais je dirais qu'on va obligatoirement vers ça parce que il y a cette culture de la circulation de l'eau à ciel ouvert, comment on en tire parti d'un point de vue paysager, et aussi comment on en tire parti d'un point de vue bioclimatique. La ressource dans le sud, en particulier l'Espagne, est très rare, donc de quelques gouttes, fallait pouvoir générer des îlots de fraîcheur importants. Donc il suffit de visiter les différents espaces de la vieille ville, à Séville, pour voir ô combien ils ont su tirer parti de cette petite ressource en eau qui n'arrive que l'été, que de façon très brutale. Et enfin, en tout cas, nous, c'est une source d'inspiration extrêmement forte.
Alors, quels sont les espaces de porosité les plus sensibles entre le dedans et le dehors au sujet de l'eau ? Et de quelle manière l'hydrologue pense l'habitat ou pense à l'habitat ?
C'est une question très compliquée pour l'hydrologue. Mais... Alors, en termes de porosité, je vais faire une mauvaise blague, mais on essaie qu'il y ait le moins de porosité possible entre l'extérieur et l'intérieur. Non, ce que je veux dire, c'est que nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de prévenir le risque de ces habitants, de faire en sorte que même quand ils sont en zone inondable, ils ont une qualité de vie la meilleure possible. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est peut-être qu'il y a une réponse inattendue, mais c'est que l'habitat est générateur d'eau usée. Et nous, cette eau usée, c'est une ressource. Et ça va être de plus en plus une ressource. Tout à l'heure, je parlais d'îlot de fraîcheur. L'îlot de fraîcheur, c'est souvent de la végétation, pour son ombrage et surtout pour son évapotranspiration. L'été, il pleut assez peu, donc on ne peut pas activer cette végétation avec de l'eau de pluie. Donc on cherche d'autres eaux complémentaires. Donc on a les eaux grises, donc parmi ces eaux grises, il y a l'eau usée. Donc aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est comment on récupère cette eau produite par ses habitants pour venir activer cette végétation et participer à l'îlot de fraîcheur. Là encore, c'est comment on réinscrit cette eau dans le cycle de l'eau, dans le grand cycle de l'eau, et comment ça peut générer une nature qui, j'espère, améliorera la qualité de l'environnement de ses habitants.
Mais cette eau usée, il faut la nettoyer, la traiter.
Oui, bien sûr. Mmh. En fait, il y a toute une gamme de solutions qu'on appelle basées sur la nature. Alors, c'est un mot un petit peu fourre-tout ces dernières années.
Oui, on va se faire traiter d'écolo-bobo encore.
Ouais, mais à tort. Nous, c'est pas un militantisme, mais on voit toutes les possibilités de traitement, aussi bien des eaux pluviales que les eaux usées, par phytoremédiation. Phytoremédiation, ça veut dire que les végétaux, la terre, le sable, etc., va traiter cette eau. Mais en réalité, elle va aussi se nourrir de cette eau. Donc nous, si on peut dépolluer les eaux pluviales aussi bien que les eaux usées en milieu urbain, tant mieux, parce que c'est de la matière pour générer du vert, pour générer des continuités, pour générer un intérêt bioclimatique. Enfin bref, nous, on travaille vraiment sur ces sujets-là.
Je pense que bientôt, on aura peut-être plus trop le choix parce que l'eau, elle sera tellement rare qu'on sera obligé de la réutiliser et de l'inscrire dans un autre cycle. Et je pense que pour la recherche, c'est un thème assez, assez important pour les années futures.
Est-ce qu'elle va être si rare parce qu'elle revient dans la nature ? Même si il fait très chaud et qu'elle s'évapore, elle revient peut-être de manière plus forte et plus violente, mais elle revient.
C'est ça. En fait, En termes de ressources, si on regarde ce qui pleut en France, mais dans plein de pays, hein, on a très largement suffisamment d'eau, mais on a 100 fois plus d'eau que ce qu'on va en consommer, peut-être 1000 fois plus. La difficulté, c'est qu'il y a des périodes dans l'année, à des endroits donnés, où il y a une phase où il n'y a pas suffisamment d'eau. Voilà. Et en fait, il ne faut pas s'inquiéter sur l'ensemble de l'année, il faut s'inquiéter sur cette petite partie-là. Et tout le travail que nous on fait, mais que nous tous on fait, c'est comment on assure cette césure. Et là encore, soit on fait des très gros réservoirs, des très grosses infrastructures, mais on ne pourra jamais répondre aux besoins, tellement ce besoin est grand malgré tout. Donc l'idée encore, c'est de voir comment on peut s'inscrire dans les processus naturels. Une des réponses pour nous essentielles, c'est l'infiltration. C'est se dire, voilà, il y a des nappes. Ces nappes, naturellement, elles sont plutôt basses l'été, plutôt hautes l'hiver. À nous de les recharger au maximum pour que l'été, sa réserve soit suffisamment, soit suffisante pour pouvoir répondre à cette césure. Donc c'est se servir du contexte naturel pour profiter d'une énorme réserve. Et ça nous oblige à réinfiltrer. Donc réinfiltrer, ça veut dire rendre les sols poreux, ça veut dire éviter les tuyaux, ça veut dire tout ça. Donc vous voyez, ça a un impact aussi sur la ville. Donc l'idée, ce n'est pas tellement de créer de la ressource en plus, c'est d'équilibrer la présence de cette ressource durant toute l'année, quoi, et en période estivale surtout.
Et là, j'ai une question qui me vient. Les eaux grises, on ne peut pas les traiter de manière individuelle. Il faut forcément que ça aille dans l'épuration.
Non, ou... pas du tout. En fait, ça dépend de l'usage qu'on va en faire. Ouais. Bon, nous, comme vous avez compris, je pense que c'est vraiment c'est comment on va générer de la nature, du verre dans la ville. Pour ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir une eau potable. On peut avoir une eau assez peu polluée. Donc, même nous, on travaille par exemple beaucoup sur les eaux d'Exor. Bon, en ce moment, on travaille sur les gares du Grand Paris. On récupère leurs eaux, les eaux du sous-sol qui s'infiltrent dans les tunnels, dans les gares. On les récupère pour, plutôt que de les rejeter au réseau, pour créer des espaces verts. Ces espaces verts, on n'a pas besoin d'une qualité d'eau énorme. Donc, on va faire un dispositif de phytoremédiation qui va permettre de faire que cette eau soit suffisamment dépolluée pour être compatible avec un usage urbain en espace vert.
Après, c'est un thème qu'on peut traiter à plusieurs échelles, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle architecturale même.
Exactement.
Et puis après, à une échelle plus territoriale. Et c'est vrai que le fait de trouver peut-être d'autres échelles de traitement est intéressant pour l'avenir. À l'échelle architecturale, ça c'est vachement intéressant.
Bien sûr.
Surtout pour... c'est vrai que dernièrement, dans toutes nos opérations, on génère pas mal d'espaces verts, on génère beaucoup de parcs, on fait beaucoup d'espaces en pleine terre, parce qu'en plus, on a des contraintes réglementaires qui nous imposent aussi de faire des espaces en pleine terre. La question, c'est comment les arroser. Donc, ça peut être une réponse assez pertinente.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant de l'eau dans l'architecture ? Peut-être à la lumière d'exemples ?
L'eau dans l'architecture, je vais peut-être me répéter, un petit peu parler de cette idée où c'est comment ce parcours de l'eau dans l'architecture peut être mis en scène, à la fois avec ses gouttières, avec ses toitures, avec ses bassins, avec ses fontaines. Et en fait, tout ça, c'est l'histoire de l'architecture est pleine d'exemples et pleine de références, d'imaginaires. C'est des sources d'inspiration assez importantes pour renouer, enfin, comme tu le disais, avec cette idée de cycle de l'eau. Donc, après, moi, je vais peut-être revenir sur un sujet qui revient. Enfin, on parle beaucoup d'eau, de risque d'inondation. C'est cette espèce, la question du PPRI. Il y a une sorte d'urbanisme de PPRI qu'on voit beaucoup dans certains quartiers avec des rez-de-chaussée qui deviennent complètement stériles parce que, du coup, dans certains quartiers, on met des parkings, dans d'autres quartiers, en fait, on met rien du tout. Ce qui fait des villes, ce qui peut créer des villes pas très, très chaleureuses. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est assez militant, on essaie de lutter pour ne pas avoir ça. Et puis, c'est là que je citerai l'exemple de Nice Grand Arenas où tout l'enjeu, et là, c'est tout le travail avec Bas, c'est de fabriquer des rez-de-chaussée hors d'eau, surélevés, mais qu'il y ait quand même un lien entre l'espace public et ces rez-de-chaussée pour éviter cette espèce d'urbanisme de PPRI complètement inerte qui crée une ville pas très, très, très agréable. Quoi.
Ouais, et ces périphéries de ville avec ces boîtes qui n'en finissent pas, est-ce que l'eau peut les emporter ?
Bon, moi, je répondrai à cette question. Effectivement, quand on pose la question l'eau et l'architecture, on a tendance à se demander oui, comment on va recycler l'eau usée, comment on va mettre l'eau usée dans la chasse d'eau des toilettes. Bon, tout ça, c'est intéressant. Comment on va économiser l'eau potable? Il y a des techniques. Bon, c'est ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est comment, en réalité, comment on va créer une architecture qui soit compatible avec une présence éphémère de l'eau, parfois même exceptionnelle de l'eau, ou parfois très fréquente. Et c'est là où il y a ce travail qui est en cours et qui est très compliqué. Comment on fait un rez-de-chaussée qui va s'inonder régulièrement? C'est-à-dire on peut pas y mettre de choses fragiles. On doit pouvoir, dans certains endroits, dans le sud, par exemple, devoir quitter cet espace très rapidement. Et en même temps, on ne peut pas créer une ville avec que des parkings en rez-de-chaussée. Donc, il y a vraiment ce travail-là. Il y a l'autre travail qui est aussi lié à la réglementation. Ce n'est pas le PPRI, c'est l'allègement des petites pluies. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Ce qui oblige à faire des toitures végétalisées ou des espaces végétalisés en hauteur. Qui dit espace végétalisé, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait de l'agriculture urbaine? Comment on gère cette agriculture urbaine? Ensuite, ces descentes d'eau, où est-ce qu'on les met? Bref, ça a un impact sur la morphologie architecturale très importante. Ensuite, concernant les zones d'activité, ce serait formidable hein, si on pouvait régler tout ça avec la présence de l'eau. Ceci dit, les contraintes de l'eau sont tellement fortes aujourd'hui, réglementaires, et plus ça va, plus il y a cette demande de respecter la géographie avec des écoulements. Enfin, c'est la trame de l'eau, donc la trame de la géographie, qui doit être respectée en premier lieu, oblige... les urbanistes, tous ces acteurs qui génèrent ces zones d'activité, à s'intégrer quand même dans ça et à créer des volumes qui vont eux aussi reprendre les eaux pluviales, eux aussi peut-être végétaliser, eux aussi faire des espaces de rétention, des zones humides, donc créer de la biodiversité. Et donc il y a des actes comme ça où c'est assez réussi. Alors nous, pour citer nos projets, c'est la ZAC des Tulipes Nord au Bourget, où il y a vraiment cette approche-là, et c'était un travail assez compliqué avec les différents acteurs, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce type de contraintes, mais qui aujourd'hui sont plutôt, je dirais pas contents, je dirais presque ravis d'avoir eu ces contraintes, parce que le paysage et donc la valeur ajoutée de ces espaces extérieurs fait que ça donne une dimension qu'ils n'auraient pas pensé, auquel ils n'avaient pas pensé à l'origine. Donc c'est une arme, en fait, je parle souvent de ça, l'eau pluviale. Ouais. La gestion de l'eau, c'est vraiment une arme pour faire bouger les choses d'un point de vue urbain et architectural.
Ouais. Puis après, si on parle des zones d'activité dans un contexte de ZAN, zéro artificialisation nette, ben en fait, la transformation des zones d'activité est une. Ce sont des gisements fonciers incroyables, et leur transformation, leur désimperméabilisation, le fait de les recasser, de les redébitumer pour en faire des lieux de vie et tout ça. Ça peut être aussi des espaces de projet assez intéressants.
Surtout que c'est, j'imagine, pas si complexe que ça à démonter.
En fait, c'est assez complexe pour des questions d'argent, de frais d'éviction, oui. Parce que ce sont des entreprises qui font des chiffres d'affaires, donc c'est pas simple de déloger ces entreprises. Après, il est vrai que dans la perspective du développement de la ville, ces espaces qui sont très peu utilisés et souvent très 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 étanches peuvent être des supports de projets assez intéressants, à la fois pour renaturer, mais aussi pour imaginer d'autres usages. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, là, je cite un chiffre sur Nice Grand Arena, qui est aujourd'hui une sorte de grande zone d'activité plate avec le marché d'intérêt national. On est à 10% de pleine terre. Le projet qu'on réalise va nous amener à 45% de pleine terre. Donc ça veut dire qu'on va redonner quand même du sol perméable, on va renaturer, on va recréer des sols poreux là où il n'y en a pas aujourd'hui. Et en fait, c'est peut-être ça qui est un enjeu aussi pour la ville du futur, de cette ville qui va se renouveler, qui va continuer de se construire sur elle-même, sur ces zones complètement étanches aujourd'hui, où le fait de les désimperméabiliser, ça peut être aussi l'occasion d'y inventer des usages, des lieux, et puis d'accueillir de nouveaux habitants, des emplois, et puis de répondre aussi aux besoins des villes.
Finalement, vous n'apportez que des bonnes nouvelles.
On préfère être optimiste que pessimiste.
Et en tout cas, pour ce qui me concerne, donc vous la rappeliez, ça fait 30 ans que j'exerce sur le sujet, plus ça va, plus le sujet de l'eau est intéressant, et je trouve plus il conduit dans le bon sens. Et il le conduit avec force, parce que comme c'est lié au risque, et comme c'est lié à la ressource, on a bien vu qu'elle manquait, d'un point de vue politique, c'est quelque chose qui force la décision dans le bon sens.
C'est un booster.
Exactement. Et comme le choix qui est partagé aussi bien par les concepteurs que par les pouvoirs publics. Alors les pouvoirs publics sont un petit peu derrière, mais néanmoins, on va vraiment dans le bon sens. Donc moi, je me réjouis des solutions en cours.
Bon, par contre, vous avez du boulot.
Oui,
je m'en réjouis tout autant.
Parce que on a toujours du boulot.
J'avais mis comme dernière question l'eau comme vecteur de transformation, mais je crois que vous venez de le démontrer de manière assez forte. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter ?
Oui, alors évidemment le bilan est très, enfin le bilan, la direction, les politiques sont très favorables, vont dans le bon sens, quoi. Mais heureusement, parce que effectivement avec le changement climatique, les changements sont vraiment importants. Quand on voit les modélisations du GIEC en termes de submersion marine, par exemple, on va sur des fréquences de submersion qui sont assez dingues. Par exemple, on travaille sur Saint-Nazaire, qui a connu Xintia, donc c'était une submersion marine il y a une dizaine d'années, qui se produit tous les 100 ans. Il est prévu que ça se produise 5 fois par an en 2100, donc 500 fois plus. Donc vous voyez, c'est une problématique qui est forte, quoi. Donc tant mieux qu'il y ait cette réflexion des pouvoirs et qu'il y ait ces mises en œuvre, qu'il y ait cette adhésion d'un grand nombre d'acteurs, parce que la problématique va ne faire que s'amplifier. Quoi. Voilà, c'est un peu moins positif, mais ça...
Bon, oui, il ne faut pas non, voilà, crier victoire trop vite.
Voilà, c'est ça.
Un mot de la fin ?
Un mot de la fin, moi je dirais que les rivières, les ruisseaux, les canaux, ce sont des lieux extraordinaires, formidables, qui arrivent à fédérer, qui arrive à nous rassembler. Tout le monde y est sensible, finalement. Et en faire des vrais thèmes de projet, c'est quelque chose qui nous porte du coup, depuis quelques années, et puis c'est un sujet qu'on adore traiter et qu'on veut poursuivre. Et à plusieurs échelles, enfin, à la fois à l'échelle territoriale, à l'échelle urbaine, à l'échelle architecturale. Donc c'est vraiment multiscalaire et un véritable outil de projet qui répond aussi à l'urgence qu'on vit aujourd'hui.
Christian ?
C'est presque la même, enfin, c'est la même chose que je veux dire, mais avec d'autres termes, c'est que tous ces sujets qu'on a abordés, en fait, ne relèvent pas, enfin, relèvent à la base du domaine de l'hydrologie, mais en réalité, les acteurs qui vont pouvoir intervenir sont en réalité les architectes, les urbanistes, qui ont cette vision globale et qui peuvent faire en sorte que tous les acteurs de l'aménagement jouent leur petit rôle, mais chacun a son rôle important, même celui qui pose la gouttière, même le paysagiste, même le bureau d'études VRD, enfin l'ensemble des acteurs doivent être associés à cette problématique. Et donc il ne faut surtout pas réserver ça à l'hydrologue, voire au bureau d'études VRD, c'est vraiment l'ensemble des acteurs de l'aménagement qui ont leur rôle à jouer et pour répondre à cette contrainte et pour en profiter surtout. Voilà.
Merci beaucoup, vous nous avez emmenés en voyage au fil de l'eau et on avait envie de continuer. Peut-être parce que ça évoque plein de choses, justement, vous le disiez, poétiques, et qu'on a envie de retrouver ça dans nos villes qui sont devenues parfois compliquées. Merci.
Merci, merci beaucoup.
À bientôt et chères auditrices et auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous dès mercredi pour votre numéro en anglais. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.